Bonjour tout le monde, comment ça va bien chez vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'on va pouvoir commencer le direct? Bonjour à tous. Oula, j'ai une petite boucle sur le micro, désolé. Hop. Salut Alec. Salut, salut. Ça va, tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit bien? Eh bien, très bien, on va pouvoir commencer alors. Salut Yves. Image toujours à l'envers. Je n'y peux rien. Il n'y a aucun contrôle sur l'iPhone qui permette de changer l'orientation de l'image. Tout est contrôlé par l'application. Et l'application ne me propose pas de retourner l'image. Donc, je suis certain que c'est un bug de l'application. Rien du tout. Je n'y peux rien du tout, ça vient de l'application. Attendez, je baisse un tout petit peu ma luminosité. Bon, je sais, ça donne l'heure à l'envers. Regardez-moi dans un miroir et tout ira mieux. Je voudrais remercier ce matin nos contributeurs. Nos contributeurs du jour, c'est MacKay84, David, Jérôme, Pascal Hier et Clément. Merci à vous les contributeurs. Contributeurs sans qui cette émission ne pourrait point exister et nous ne serions pas là à l'envers comme à l'endroit. Ça vous perturbe hein, l'image à l'envers. Hein. Je comprends. Mais si je pouvais y faire quelque chose, je le ferais. Mais je peux point faire quoi que ce soit. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope? Je voudrais d'abord remercier Marion d'avoir pu faire le Techscope d'hier, puisque je n'étais pas là, en déplacement familial en Allemagne. Ceux qui me suivent dans les stories ont vu que j'étais là-bas. Et normalement, demain matin, on présentera Techscope tous les deux, pour remplacer le Techscope en duo du lundi matin. Ça sera demain matin, donc. Ce matin, on va parler de Kat Borlaugan, la nouvelle directrice de la French Tech. On en parlera un petit peu et quel est son projet à travers une interview de usinedigital.fr. On parlera également iOS 12 avec notamment ce qui se prépare, c'est des rumeurs, autour de l'utilisation de la puce NFC qui, c'est vrai, est un peu sous-exploitée sur iOS pour l'instant. On parlera bien sûr de la RGPD, hein, on est dans l'application, et on parlera surtout de ce que va faire la quadrature du net, puisqu'ils ont décidé de passer à l'attaque contre les géants du net et de faire des recours collectifs. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. On continuera sur la RGPD en parlant de Twitter qui bloque les ados européens qui ont dit avoir moins de 16 ans, comme quoi dire la vérité, c'était pas la bonne idée. Non, je plaisante. Et justement, comment Twitter est un des réseaux sociaux qui applique le plus à la lettre, pour l'instant en tout cas, au niveau de la limitation d'âge, le blocage. On parlera également, ça sera plus des brèves, nos deux derniers articles. On parlera d'OVH qui laisse tomber Ubique. Ubique qui était le service de stockage sur le nuage, sur le cloud. Quelques explications sur pourquoi il le laisse tomber. Et pas de panique pour ceux qui ont déjà leur fichier chez Ubique. Ils vont pas éteindre l'interrupteur tout de suite. Et on terminera par une suite, et on espère une fin, de l'histoire entre Steam et Apple. Je vous le rappelle, Steam accusait Apple de bloquer son application qui permettra de streamer vos jeux Steam sur la plateforme iOS. Apple dit pas du tout, nous on encourage fortement ça, mais vous n'êtes pas dans les clous. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à travailler ensemble? C'est toute la question. Suspense, suspense. Oh là là, c'est fou le monde de la tech. Amour, gloire et beauté, trahison et croche-pied. Oh là, hey, j'ai rimé, sans faire exprès. Amour, gloire et beauté, et coup fourré et croche-pied. Tu dois aller travailler, eh bien écoute, dommage pour toi, Run Game, mais tu pourras toujours regarder le replay. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis qui regardent ou qui écoutent le replay de cette émission. On va pouvoir commencer si vous êtes bien accroché à votre tasse à café. Est-ce que vous êtes prêts à la chatroom? Ah, il y a du monde déjà. Tout le monde est prêt? Ouh, la chatroom, elle manque de réactivité, hein, là. Oh là là, il vous faut plus de 10 minutes pour taper, là. À fond les ballons. Bon, bah c'est parti. On va parler effectivement de Kat Borlogan. J'espère que je prononce bien son Borlogan ou Borlogan. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Elle a été nommée directrice de la French Tech et je vous invite à lire justement son interview qui a été faite par usinedigital.fr. Parce que c'est assez intéressant, effectivement. Je pense que vous êtes beaucoup, et moi le premier, je ne la connaissais pas. Je suis pas très introduit, on va dire, dans le milieu des startups françaises. Je les ai côtoyées au CES, etc., mais je ne connais pas les uns et les autres. Et elle définit donc dans son interview sa mission. Elle dit arriver justement à un moment très intéressant de la French Tech, et c'est vrai. C'est vrai qu'on peut reconnaître qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, on va pas partir dans un débat politique, mais il y a eu quand même une vraie impulsion pour les startups et pour le tissu technologique en France, par d'abord des voies politiques et aussi profiter un petit peu de l'état du monde pour rendre la France plus appétante, comme on dit, pour les startups. Et ça paye plutôt. La France commence à avoir une vraie place, même une place importante, hein, ça on l'a vu au CES depuis, je dirais bien 3-4 ans, la France commence à avoir quand même une place importante. Un signe qui ne trompe pas, moi qui fais de la pige d'articles technologiques tous les matins, c'est que on commence à voir assez souvent des articles sur ce qui se passe en France dans la presse et blog tech américains. Avant, on en avait une fois par an quand on faisait une grosse bourde. Là, voilà, Vivatech, il y avait des articles dans TechCrunch, dans The Verge, etc. Ce qui veut bien dire, alors qu'il y a régulièrement des articles sur, par exemple, ce qui se passe au Royaume-Uni, enfin en Angleterre, ou ce qui se passe en Allemagne, ce qui veut dire que Paris et la France, puisque là, Paris n'est pas la France, hein, je vous le rappelle, hein, bande de Parisiens, est en train de prendre une place importante. Mais c'est pas tout d'être appétant pour les startups ou préparer un tissu, on va dire, une terre d'accueil pour les startups, que ça soit d'un point de vue fiscal ou d'aide ou ce genre de choses. Il faut, une startup n'est pas destinée à rester une startup. Et l'enjeu pour Kat Borlogan, et c'est pour ça que c'est un moment intéressant, c'est comment travailler justement sur la croissance de ces startups, le sizing, excusez mon anglicisme, des startups pour qu'elles deviennent véritablement des sociétés qui font, excusez le gros mot hein, en français, mais qui feront du profit, oh le vilain mot, ou en tout cas qui tournons profit d'une manière plus positive, créeront de l'emploi et de la croissance pour le pays et de la richesse, parce que une start-up n'est pas destinée à rester une start-up. Ce qu'il y a d'intéressant, là je vous résume hein, vraiment son interview parce qu'elle est assez longue, déjà sur la personne et la personnalité de Kat Borlogan, je vous refais pas son CV, mais effectivement, avec un certain sourire, elle dit, un article dit sur elle, elle coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'elle est jeune, diplômée, issue de l'immigration. Donc, ça peut paraître un choix calculé. Elle l'assume complètement. Elle en a tout à fait conscience qu'elle coche effectivement pas mal de cases. Mais elle le définit d'une manière assez positive. Comme elle dit, si du coup je peux être un modèle pour des femmes jeunes issues de l'immigration et diplômées, tant mieux. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir du réalisme, effectivement, sur sa nomination, mais d'être positif par rapport à ça. Et que Et ça, c'est ce qu'il y a de très intéressant. Elle a effectivement un profil très international. Elle a fait une partie de ses études au Japon, si je ne me trompe pas. Elle a travaillé chez Google, mais très rapidement, elle a travaillé aussi sur le tissu des startups en France. Bref, et elle a déjà travaillé avec le gouvernement à travers diverses sociétés. Donc, elle connaît un petit peu les rouages administratifs. Elle a un profil. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est son ouverture à l'international, parce que je pense qu'il faut... Je n'ai absolument rien contre la French Tech avec leur petit coq en origami. C'est très bien qu'on cultive la France avance, ouais. Mais attention à ne pas tomber dans « on est des startups françaises, on sent le camembert et le vin ». Enfin, je caricature, mais une startup, elle est faite pour le monde. Une entreprise tech, la plupart, on va dire, ne sont pas à destination nationale. Une start-up doit rentrer en compétition avec ces grandes... Regardez les start-up, enfin, ce qui étaient des start-up qui maintenant sont des groupes mondiaux, on les appelle des boîtes américaines, mais elles-mêmes ne se définissent pas. Merci beaucoup, famille 77. Bon anniversaire à l'amour de ta vie, eh bien, qui te fait le cadeau de porter ton enfant. Eh bien, écoute, bon anniversaire. Merci en tout cas pour son super chat. Je fais parfois le parallèle audacieux avec des groupes de musique. Vous avez des groupes de rock qui sont français, qui chantent en français, et c'est très bien, et ça marche. J'avoue observer de très près les groupes qui sont originaires de France, mais qui se lancent à l'international, qui chantent pas forcément en français, qui vont faire des groupes comme Phoenix, Daft Punk, la fameuse French Touch, ça les a pas empêchés de devenir ils ne se définissent pas que parce qu'ils sont français. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout de dire que c'est complètement con de lancer quelque chose en français avec la langue française parce qu'il faut la défendre, etc. Mais arrêtons le complexe qui est de dire « Oh, la France, petit, vieux pays, ouh là là, le monde, il fait froid dehors, restons chez nous, winter is coming ». Non, faut prendre le monde à bras le corps et le secouer. Bon, bref, désolé, hein, je pars dans mes tirades lyriques. Tout ça pour dire que son profil est plutôt inspirant. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur... elle est pas... On sent qu'elle n'est pas trop issue de l'appareil politique franchouillard, quoi. Pourquoi je fais pas mes vidéos en anglais, du coup? C'est une très bonne question. Je me suis beaucoup interrogé là-dessus, Pascal. D'abord, parce que même si... On va dire, je suis quasi fluente en anglais. Je n'ai quand même pas du tout la même aisance en anglais qu'en français, parce que je le pratique peu. Par exemple, les jeux de mots, je pourrais pas les faire en anglais. Je ne suis pas assez à l'aise en anglais pour partir dans du jeu de mots, dans des traits d'esprit et ce genre de trucs. Honnêtement, si j'avais le temps, je ferais mes émissions dans les deux langues. Et il n'est pas exclu qu'un jour, je me mette à faire en anglais. Mais ça serait vraiment une question de temps, parce que ça serait un boulot absolument énorme. Après, je suis aussi pour qu'on ait des émissions en français. Donc, j'abandonnerai pas le français non plus, quoi. Ouais, je serais beaucoup moins drôle en anglais, ça c'est clair. Mais ouais, honnêtement, si j'avais le temps, déjà... Je peux vous le dire, il y a déjà nos bénévoles qui, dès qu'ils peuvent, mettre des sous-titres anglais à toutes nos productions vidéo. Cet été, il y a quelqu'un qui vient nous aider pour traduire aussi, pour qu'on ait des sous-titres sur toutes les émissions. Et voilà, mais ouais, ça me déplairait pas que nos émissions soient en anglais aussi. Genre, aucun complexe à les faire en anglais, quoi. Non, c'est plus... C'est pas word joke, un jeu de mots. C'est play of word. Il y a un autre mot aussi, je sais plus ce que c'est. The pun... The, excuse the... Ah, je retrouverai pas le mot. Il y a un autre mot anglais, je crois que c'est punt ou pun, je sais plus. Bref, Et c'est pas une très grande tradition, c'est pas une très grande tradition anglophone de faire du jeu de mots. Le jeu de mots est une pratique quand même. Le calembour, c'est très très français. Hein. On aime bien, nous, les jeux de mots, et c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins pratiqué. Wordplay, ça se dit aussi? Peut-être. Je crois qu'on dit plutôt play. Ouais, je sais plus. Bon, bref. Ne nous bloquons pas. Revenons quand même sur notre article. Hein, la chatroom essaie de me faire partir dans les graviers, comme d'habitude. Revenons à Kate Borlogan. Elle parle également, effectivement, des axes stratégiques pour la French Tech, et ça, c'est intéressant. Premier axe, les talents, attirer plus de talents. Alors, bien sûr, favoriser l'emploi en France et qu'on garde nos talents, c'est une priorité très importante pour la French Tech. Mais là aussi, prenons une dimension mondiale. Il faut attirer les intelligences de tous les pays. Le métissage et des langues et des cultures apportera la richesse et fait la richesse des startups. On le voit aujourd'hui dans les GAFAM, qui sont des groupes internationaux. Ils n'ont aucun... Enfin, ils embauchent pas que des Américains, loin de là. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'ils ont avec Trump. Il faut attirer les personnes d'où qu'elles viennent. Il faut attirer les meilleurs. Et de la discrimination positive, pourquoi pas, mais il faut surtout attirer ce qu'il y a de meilleur, quoi. Il y a un fléau dans la chatroom. De quoi vous parlez? Le fléau de la chatroom, c'est d'essayer de me faire sortir de mes articles. Hein? Mais vous m'aurez... Enfin, si, vous m'aurez assez souvent. Ça, c'est l'axe numéro un. Deuxième axe, donc la croissance, c'est donc ce dont je vous parlais. Et c'est une étape dangereuse et difficile pour les startups. Le sizing, passer... On le voit, moi, je le vois, parce que, par exemple, Shadow, Blade, je les suis de très près. C'est aujourd'hui l'enjeu de Shadow, par exemple. De passer vraiment d'un mode startup à une dimension internationale, de devenir une vraie société, c'est un moment dangereux, difficile pour une start-up. On se passe des aides, on ne peut plus non plus dire « Oh, mais on a une start-up !» pour excuser un certain nombre d'erreurs, de retards ou de problèmes. Et alors, une chose qui m'intéresse énormément, elle parle de créer l'indice Next 40, qui serait un indice français, qui va regrouper les 40 potentielles prochaines licornes que la France a envie de suivre. Je vous dis ça, c'est purement égoïste. Ce Next 40, c'est que aujourd'hui, vous le savez, j'aime bien investir dans la tech. Je l'ai jamais caché, j'ai des actions dans certaines boîtes technologiques, mais surtout aux États-Unis. Et en France, et du coup, dans mon PEA, j'arrive pas à mettre des startups parce que je connais pas bien les potentiels, on va dire en termes de bourse, de capital, financier, des startups françaises. Et un indice Next 40 sur les licornes. Licorne, c'est une startup, on va dire schématiquement, une licorne, c'est une startup avec un fort potentiel. Après, il y a un côté péjoratif au mot licorne. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt en train de devenir un terme générique pour dire les entreprises à fort, les startups à fort potentiel. Ça peut être pas mal d'avoir un Next 40. Ça peut justement aider à l'investissement dans des startups françaises. Vous le savez, hein, si vous faites un petit peu d'épargne, en France, on a un système qui s'appelle le PEA, qui est plutôt intéressant. C'est le plan épargne-action. Si on pouvait acheter plus facilement des actions dans des startups françaises avec une meilleure lisibilité, sachant que le PEA vous permet de défiscaliser les profits que vous feriez sur ces actions, au bout de 8 ans, ça serait quand même intéressant. Ça pourrait être un truc pas mal. Parce qu'aujourd'hui, même si on en a envie, c'est difficile d'investir dans les startups françaises. Donc ça, très bien. Troisième axe, c'est lié au rôle du gouvernement. Et ça, c'est intéressant aussi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais La France n'est pas les États-Unis, l'Europe ne sont pas les États-Unis. Je trouve ça très intéressant d'aborder le sujet start-up par le prisme, on va dire, européen et français. Nous ne sommes pas des ultra-libéraux en France et en Europe. Ça ne nous empêche pas d'avoir des courants libéraux en termes économiques, mais on n'est pas des jusqu'au boutisme du libéralisme. Donc l'État a son mot à dire, et parfois c'est chiant, mais parfois c'est plutôt pour des bonnes choses. On le voit quand même en France, il y a la CNIL, l'URSSAF, les impôts, l'INPI, tout ça, comment on va architecturer tout ça pour favoriser les start-up sans non plus que ça devienne la ruée vers l'Oklahoma, le libéralisme cow-boy, vous avez le droit de tout faire, move fast and break things, rien à foutre des autres, etc. Donc c'est assez intéressant, quel rôle l'État doit avoir, un rôle pas trop intrusif non plus, parce que l'économie, à mon avis, dès que l'État met trop les doigts dans les rouages de l'économie, il a tendance à tout faire dérailler, mais en même temps, bien fait, ça peut être un vrai élément déclencheur, une vraie impulsion et un vrai projet d'un pays. Et ça, c'est quand même intéressant. Et le quatrième axe porte sur la communauté. Donc ça, c'est effectivement comment faire. Et ça, c'est plutôt pas mal fait avec la French Tech. On le voit, Vivatech et tout ça. La communauté des entrepreneurs français communique plutôt pas mal. Il y a toujours des progrès à faire et travaille plutôt pas mal dans le même sens. Maintenant, elles ont des dossiers comme la diversité, l'inclusion, l'écologie, des choses comme ça, qu'il va falloir synchroniser et accorder les violons. En France, on est assez frileux, pas trop envie de lancer des trucks sans mettre un milliard de bâtons dans les roues. Soyons un peu positifs. Je sais, c'est pas très français, mais soyons un peu positifs. Je vous le dis du côté entrepreneur, les choses sont très loin d'être parfaites, mais certaines choses ont été améliorées. La numérisation de l'État et du système administratif. Je sais, vous allez tous me dire, oui, mais la déclaration en ligne, c'est un vrai bordel. Et je suis d'accord avec vous. Mais on ne parle pas exactement de la même chose. Mais ne serait-ce que les démarches qu'ont à entreprendre les entrepreneurs pour créer des sociétés, créer de la richesse, je peux vous le dire, il y a 10-15 ans, c'était plus compliqué que maintenant. Beaucoup plus compliqué que maintenant. Et en termes de sécurité pour les entrepreneurs, c'est quand même mieux. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, si vous faisiez faillite avec votre start-up, ce qui arrive très souvent avec une start-up, parce que une start-up, c'est aussi essayer des choses, vous aviez des gros problèmes pour recréer une activité derrière ou pour retrouver une banque. Ça, c'est un des premiers verrous ou un des premiers freins qu'on a fait sauter, qui était indispensable. Bon, ensuite, l'article continue, elle explique effectivement toute sa stratégie et la roadmap qu'elle va mettre en place, les thématiques qu'elle va privilégier. Je vous invite vraiment à aller lire l'article pour voir tout ça. Le budget, aujourd'hui, il est de 15 millions d'euros, ce qui est assez faible pour l'international. Donc, elle précise qu'ils sont en train de faire une levée de fonds, dans le sens d'aller chercher des financements pour qu'il y ait un petit peu plus d'huile dans les rouages. Et à la dernière question, comment voyez-vous la French Tech dans 5 ans? Elle dit « La France sera devenue l'écosystème tech de référence de l'Europe. La base, c'est qu'on ait réussi les 4 piliers, que la France soit une vraie destination de choix pour les talents non francophones. » Ça, je trouve ça très intéressant comme phrase. « Les investisseurs et les startups qui cherchent un pied en Europe. Notre écosystème aura produit plus de licornes sans sacrifier les valeurs du pays. Je me suis engagé sur 3 ans car au-delà, ce n'est pas une carrière, c'est une mission. Ce que je dois accomplir est très clair. » Bon, en tout cas, elle a la tête sur les épaules. On espère juste qu'elle ne va pas s'engluer dans des rouages. C'est hélas ce qui arrive assez souvent dans les initiatives françaises, qu'elle ne s'englue pas et qu'elle ne se paralyse pas trop vite. C'est tout ce qu'on lui souhaite, donc qu'elle s'entoure bien. De très gros travaux... oui, l'image à l'envers, je n'y peux rien. Oula, merci beaucoup pour ton pour ton super chat, Troll is an art, merci énormément. Bon retour de vacances, on aura l'occasion revoir à la NDH. Merci beaucoup. Attends, la NDH, j'ai un doute. C'est quoi la NDH déjà? Ah, Nuduac! Ah, Nuduac, je suis stupide. Eh bien, écoute, merci Troll is an art, je ne sais pas qui tu es. Tu me diras qui tu es. Nuit du hack, oui. Excuse-moi. Mais oui, c'est très bientôt la nuit du hack. On y sera. En plus, cette année, la nuit du hack, vous n'avez plus d'excuses. C'est pas à Disney, parce que je sais que certains d'entre vous sont allergiques aux oreilles. C'est à la Villette, cette année, la nuit du hack. On avait mangé ensemble. Tu es celui de la chaîne YouTube... Ah ! J'ai un trou. Dis-moi le nom de la chaîne YouTube qui est géniale. Ah ! J'espère que c'est ça, que je passe pas pour un âne. Attends, il faut que je retrouve dans mes abonnements. Celui qui a collecté les entrées. Mince. Il faut que je retrouve le nom. Faut que je retrouve le nom. J'ai pas le temps, j'ai trop d'abonnements sur YouTube. Ou je me trompe peut-être, hein. Tu es peut-être quelqu'un d'autre. Enfin bref, écoute, je suis obligé de continuer l'émission, mais on en reparlera. Surtout que j'ai un lag là dans mes abonnements et je ne retrouve pas la chaîne dont je voulais parler. Ah, j'aurais bien aimé, ça aurait été cool. On va y arriver ou pas. Ah, j'essaie de retrouver. Ah, j'ai trouvé. Thinkerview. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe ou pas? Troll is an art. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous conseille d'aller voir cette chaîne Thinkerview. Qui est une chaîne avec des interviews assez exceptionnelles. J'aime beaucoup, beaucoup ce que fait cette chaîne. Oui, mais pas grave, continue. Bah, tu vois, je suis bon. Je vais vous lire. Thinkerview est un groupe indépendant issu d'Internet, très différent de la plupart des think tanks, qui sont inféodés à des partis politiques ou à des intérêts privés. Thinkerview a pour objectif mettre à l'épreuve les idées, les discours, en décelant leurs failles et leurs limites. Bref, on en reparlera un jour, parce que franchement, allez voir cette chaîne, c'est top. Bah tu vois, t'as déjà des fans dans la chatroom. Beaucoup de fans. Faut qu'on se revoie à la nuit d'Iac. Faisons des choses ensemble. Je dis ça, mais après je te dirai, j'ai jamais le temps. On avait dormi ensemble, non, moi je me souviens pas. Ça, je m'en souviens pas. Allez, on avance parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Kate Bordelang. Tiens, j'y arriverai pas. Bref, j'ai passé beaucoup de temps avec Kate. J'en suis ravi. Mais il est temps de passer à autre chose. Donc, on va parler d'iOS 12. Mais iOS 12, ça va passer assez vite parce que c'est des rumeurs, mais des rumeurs intéressantes. Vous le savez que depuis l'iPhone 6, on a une puce NFC sur les iPhones. Qu'on a eu, on va dire, à peu près 150 ans après les Android, et j'exagère à peine. Et en plus, Apple, il a mis une puce NFC, il a dit, oui, mais attention, c'est le NFC Apple. Hein. Nous, on le rend compatible Apple Pay, 2-3 trucs, mais non, c'est pas la fête du slip, c'est pas un NFC qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Hein. Et depuis, c'est un peu resté dans l'état. Et c'est vrai que pour certains, je pense qu'on ne se souvient même plus qu'on a une puce NFC dans les iPhones, tellement c'est sous-exploité. Eh bien, les choses changeraient peut-être, il serait temps, hein, à peu près 2000 ans après Android, de changer les choses. Et Apple sera en train de travailler à des ouvertures. Attention, hein, ça va pas non plus être le NFC, open data, vas-y, fais ta sauce. Mais il l'ouvrirait à certaines utilisations du NFC, qui serait complètement normal, genre ouvrir sa chambre d'hôtel, passe Navigo, et ce genre de choses. Et c'est vrai que ça serait bien quand même. Parce que par exemple, si on prend l'exemple du passe Navigo, et je pense d'autres passes dans d'autres villes de France et de Navarre et de toute la francophonie, Bah, c'était annoncé que sur Android Navigo, parce que le NFC d'Apple était fermé. Donc, moi, je suis 100% pour Apple, hein, et c'est bien. Et c'est pas grave si vous avez 2000 ans de retard. Il vaut mieux le faire un jour que ne pas le faire du tout, hein. Je sais, Apple, vous êtes très qui va piano, va ça, non. L'image est à l'envers, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, c'est l'appli YouTube qui déconne. Donc, on verra bien. La WWDC, c'est du 4 au 8 juin, donc c'est la semaine prochaine. Il va y avoir des annonces, il y a plein de rumeurs. Bienvenue dans le monde des articles de presse Apple. Apple, vous pourriez dire n'importe quoi, ça fait du clic. Moi, je peux dire, regardez, les rumeurs, Apple lancerait un élastique. Un élastique qui permettrait, en fait, de coller deux iPhones ensemble et d'avoir quatre objectifs et de faire du 360 avec deux iPhone 10. Bon, ça fait un peu cher. Donc, ils l'ont beaucoup travaillé. Hein. Johnny Ive a travaillé sur le design de cet élastique. Et il sera à peu près à 89 €, ce qui est plutôt accessible quand on voit la finition et la pureté du design. Voilà. Le élastique, exactement. Combien de couleurs? Écoute, les rumeurs parlent de deux couleurs. Putain, le mec qui avait tout prévu. J'ai juste ça qui traîne sur ma table. Deux couleurs. Donc, on sent bien qu'Apple veut attaquer le marché asiatique avec ce modèle. Hein, c'est une couleur qui peut choquer, mais dans les pays asiatiques, c'est une couleur qui représente la joie. J'achète. Eh bien, écoutez, envoyez vos dons à Nowtech et on se chargera de dire à Apple, par un petit tweet, que vous aviez l'intention d'acheter leurs produits. Vous êtes déjà tous à fond sur l'élastique. Putain, je devrais le lancer, en fait, ça marcherait. En fait, je vais même vous dire, et là, je pars complètement dans le gravier. En fait, cet élastique, qui sont des élastiques complètement commerciaux, puisqu'on m'avait, c'était louunnumero.com qui me l'avait filé. Ils sont hyper pratiques en photo. Vous savez à quoi ça me sert, ça, en photo? Ça me sert à bloquer sur certains objectifs la bague de mise au point. Et notamment quand on filme, je ne veux pas ni que le zoom, ni que la mise au point bouge. Je mets cet élastique et ça bloque les trucs. Donc, super utile, le élastique. Il te faut un élastique avec écrit focus, reste sur tes articles, tu as raison. Allez, on enchaîne sans transition, la quadrature du net et la RGPD, la quadrature du net n'a pas perdu de temps, puisque le jour même, le 25, de la mise en place la RGPD, le règlement général sur la protection des données, la quadrature du net a annoncé son intention de faire des recours collectifs, donc d'attaquer les géants du net accusés de ne pas respecter le droit européen. Donc, il passe à l'offensive. Une première salve, effectivement, d'attaque. La première salve va concerner... Ah, j'ai pas pu stabilo-bosser ce matin parce que ma Surface est en train de mettre Windows à jour, donc je vais perdre un petit peu de temps. Les premiers qui vont être concernés par cette attaque... Il faut que je retrouve, eh bien sûr, je ne retrouve pas. Je sais qu'il y a Google. Bref, je crois qu'ils attaquent Google. Facebook, le premier, je crois, dans la ligne de mire. Après, il y a Google sur Gmail et d'autres trucs. Ah, putain, il me manque mon Stabilo Boss, là. Placement produit, Stabilo Boss. Enfin, bref, allez lire l'article dans Numérama pour avoir plus d'informations. L'idée, effectivement, c'est de faire des recours collectifs, puisque la quadrature du net dit, effectivement, que même si elles appliquent, elles sont obligées d'appliquer le RGPD, ces sociétés ne respectent pas les règles, et notamment la règle, et il l'explique assez bien, effectivement, dans une vidéo, que ces plateformes sont basées sur la publicité. La publicité, même si c'est dit d'une manière cynique, ça a été relativement bien expliqué par Mister Moujotte du temps de TF1. La publicité, c'est de donner des espaces de cerveau disponibles aux messages publicitaires. Et pour la quadrature du net, notre consentement à donner nos espaces de cerveau disponibles n'est pas clair, il est induit, il n'est pas libre. C'est-à-dire que pour la quadrature du net, et je pense qu'ils ont raison, on donne notre consentement sous une forme... Ah, c'était Leleï, c'était pas Moujotte, pardon. Oui, pardon. Bref, on donne notre consentement finalement sous une espèce de forme de menace. C'est-à-dire que, en gros, ces services vont nous dire... Si vous ne donnez pas votre consentement pour être soumis à la publicité, on ne peut pas vous offrir tel ou tel service. D'un point de vue logique, ça peut paraître très logique. Bah oui, tu veux même pas qu'il passe de la pub, bah normal que t'aies pas droit au service. Oui, mais du coup, tu ne donnes pas ton consentement au service librement. Je sais, c'est jouer sur les mots, mais c'est très important. Justement, sur la liberté et la protection des données, notre consentement doit être libre et non pas cautionner une espèce de chantage marchand. Pour vous donner un parallèle pour que vous compreniez bien, quand vous jouez à un tirage au sort pour gagner une manique, un stylo, un porte-clé, un scooter, un sac ou ce que vous voulez, vous avez peut-être lu que, par exemple, un tirage au sort... ne doit pas être soumis à une obligation d'achat. Vous pouvez toujours participer à un tirage au sort en mettant votre bulletin sur papier libre et en envoyant une adresse, CEDEX, machin, etc. Parce que, effectivement, dans le droit français, dans le droit commercial, on n'a pas le droit de conditionner la participation à un jeu concours, enfin un tirage au sort plus spécifiquement, à l'achat du produit. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un produit pour éventuellement le gagner ou faire gagner une dotation liée à la commercialisation de ce produit. Eh bien, ça devrait être la même chose avec l'accès des services des GAFAM. Il ne devrait pas être conditionné à une acceptation de l'utilisation de nos données à des fins publicitaires. Est-ce que j'ai été clair là-dessus ? Parce que j'espère que mon explication est super claire. Vous comprenez le... Après, je suis le premier aussi à dire, il faut bien que ces boîtes vivent et qu'il faut qu'elles aient les moyens de nous inciter. Mais il y a une différence entre inciter et obliger. Nous inciter à regarder des publicités pour qu'elles puissent faire du business. Mais elles ne doivent pas nous obliger à regarder des publicités. Alors, juste pour terminer un petit peu avec la quadrature, mais je vous invite à lire, il y a beaucoup d'articles, hein, parce qu'il n'y a pas que la quadrature du net qui va attaquer les GAFAM, il y a aussi, ouais, je vais jamais le trouver, je vais passer 3 heures à trouver son nom, il y a un autre mec qui les attaque. Ah putain, il est où? Bon, je trouverai pas. Si L'activiste et juriste autrichien Maximilian Schrem, qui a ouvert les hostilités aussi en attaquant plusieurs autorités de protection, dont la CNIL, pour qu'elles fassent leur boulot. Allez voir ce que dit la quadrature du net. Ils disent qu'ils ont besoin de vous. Si vous vous sentez militant, effectivement, dans ce recours collectif, ils ont besoin qu'il y ait plein de gens dans ce recours collectif. Votre argent ne sera pas impliqué, vous ne payerez aucunement les frais de justice. Par contre, vous ne gagnerez pas d'argent si la quadrature du net gagne, parce que c'est des procès qui sont vraiment faits pour faire de la jurisprudence et pas faits pour faire de l'argent derrière. Mais si vous vous sentez militant par rapport à ça et que vous pensez que c'est intelligence que fait la quadrature du net est pertinent, il vous invite à faire partie effectivement de l'action collective. Ils expliquent notamment que la CNIL aujourd'hui est un certain pouvoir, mais pas assez fort, et que si des actions collectives deviennent puissantes et qu'elles ont beaucoup de personnes derrière, Le problème de la CNAL et de la CNIL, c'est notamment dans ses moyens répressifs, elle a très peu de moyens. Même si on a fait passer à 4% du chiffre d'affaires sa possibilité offensive dans des cas de procès, alors qu'avant, c'était limité à 150 000 euros. Donc, c'est quand même 4% d'un chiffre d'affaires d'un Facebook, ça fait mal aux fesses. Mais ce que dit la Quadrature, c'est qu'ils veulent pousser plus fort. Et c'est pour ça qu'ils intentent ces recours collectifs. À ta clé aussi, ça ferait un petit article quelque part pour la chaîne. Alors, justement, j'étais sûr que quelqu'un me demanderait, mais est-ce que toi, tu vas le faire ? Moi, à titre personnel, ça me regarde. Et ce n'est pas forcément quelque chose que je partagerai avec vous. Parce que pour moi, c'est du domaine privé. Est-ce que... vous le savez, qu'on soutient la Quadrature du Net et qu'on cotise à la Quadrature du Net. Même ça, on le dit publiquement parce que la chaîne elle-même soutient la Quadrature du Net. Après, ce que je fais au niveau personnel, c'est mon business. Et pour une question d'impartialité, non, la chaîne ne peut pas soutenir directement cette action. Parce que sinon, je pourrais pas en parler avec suffisamment de distance. Je serais trop partisan. Alors là, certains vont me dire, mais Jérôme, tu nous as toujours dit que tu étais partisan et pas objectif. Oui, mais n'empêche. Voilà, mon argument est très fort. Oui, mais n'empêche. Bref, vous ne suivez pas ma logique, c'est pas grave. Tant que c'est logique pour moi, ça va. Si c'était pour la jurisprudence, ils attaqueraient une des milliers d'autres boîtes plus petites, plus faciles à gagner. Mais moins connu. Oui et non, parce que si tu attaques Google, Facebook, tu as le rayonnement quand même, tu as tout le rayonnement presse qu'il va y avoir autour de ces attaques. Si tu attaques des boîtes moins connues, personne n'en parle. Langue de bois, Jérôme, pas cool. Bah oui, j'ai une langue de bois, on va dire ça. Y a-t-il des recours sur ce thème aux USA ? Ben, oui et non. Là, je ne sais pas, mais pour l'instant, les initiatives sont plutôt européennes. En tout cas, ça dessine le monde d'aujourd'hui et probablement de demain. C'est quand même très bien dans l'absolu. J'ai un autre article sur le RGPD, donc je ne veux pas trop spoiler, mais c'est quand même très bien ce sursaut européen. Et c'est plus qu'un sursaut, parce que c'est des lois. Mais c'est très bien parce que pour le coup, le monde entier est en train de réfléchir à la protection. Alors, réfléchir, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais au moins on y réfléchit. Au moins on a mis le doigt sur quelque chose. Ces grands groupes sont un peu... Je ne dis pas qu'on a foutu un grand coup de pied dans l'intermédiaire, mais quand même, elles sont obligées d'appliquer un certain nombre de lois et de réfléchir à leur business model. Et ne serait-ce que cette réflexion sur leur business model... C'est déjà une évolution dans le bon sens. Est-ce qu'on va réussir à en faire des choses positives ? Est-ce que ça va bien se passer ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas un devin. Mais vous les avez... Vincent au piquet. Hein, avoir l'esprit mal tourné. Hein, c'est super dur une termitière. Ça fait mal. C'est vrai. Tapons plutôt sur un truc mou. Genre une taupière. Un truc de taupe. Un truc meuble. Bon, n'importe quoi. Je termine sur le RGPD. En tout cas, je vous invite à aller lire la Quadrature du Net si ça vous intéresse. Je termine sur le RGPD juste pour dire que Twitter effectivement a bloqué un certain nombre de comptes et bloque des ados européens qui ont dit avoir moins de 16 ans. Ouais, c'est du dégueulasse, j'ai eu le compte bloqué. Je fais bien l'ado. Hein. Effectivement, Twitter prend la lettre, effectivement, le RGPD, en tout cas en Europe, et est un petit peu plus strict sur les règles que les autres, puisque aujourd'hui, si vous n'avez pas l'âge minimum requis dans votre pays pour consentir au traitement des données personnelles, donc en gros, si vous avez moins de 13 ans, vous êtes obligé, si vous voulez débloquer votre compte Twitter, d'avoir une pièce d'identité et une autorisation parentale. Et je trouve ça très bien. Je crois que pour les 16 ans, c'est du déclaratif. Mais pour tous les autres sites, c'est uniquement du déclaratif. Donc, on le sait très bien, hein, que ces gamins de moins de 13 ans qui ne savent même pas compter sur leurs 12 doigts, eh ben, ils disent tous qu'ils ont plus de 13 ans. Quid du traitement de la pièce d'identité par Twitter? Ah ben là, c'est la responsabilité de Twitter, effectivement, dans la réglementation, de protéger la copie de ta pièce d'identité. Là, je lis le screenshot. Télécharger une copie de votre pièce d'identité officielle avec photo en cours de validité pour confirmer votre identité, passeport ou permis de conduire, par exemple, les formats XML. Vos pièces d'identité doivent être téléchargées sous la forme d'un seul fichier. Je pense que derrière, il doit y avoir une indication dans les conditions d'utilisation du traitement de ta pièce d'identité. Je ne pense pas qu'elle soit envoyée sur un serveur aux États-Unis, mais je n'en sais rien, mais ça vaut le coup de vérifier. Non, mais je faisais une blague, hein, parlons tech, je sais qu'on apprend à compter plus tôt. Si vous commencez à me prendre au premier degré, on n'a pas fini, hein, la chatroom. Hein. Je dis des blagues, je dis des bêtises. Hein. C'est pas très sérieux, parfois, quand je parle. Hein. Faut faire le tri. Hein. Faut trier leurs frais, comme je disais quand j'étais petit. Faut trier leurs frais, parce qu'il y a leurs frais et il y a leurs pas frais. C'est un jeu de mots, hein. Attention, le team premier degré, je ne fais pas d'erreur sur le dicton. Hein. Bref. On te prend dans l'angle que tu veux. Décidément, hein, la chatroom, ce matin, vous êtes bien excités, hein, quand même. Bref, moi, je trouve que c'est bien, hein, parce qu'un enfant de moins de 13 ans, il n'a aucune idée, hein, de ce qu'on peut faire de ces données personnelles, et ces données personnelles n'ont pas à être utilisées à des fins publicitaires. J'ai beau être pro-pub, et je le dis, je suis pro-pub, mais je suis anti-pub pour les enfants. Parce qu'un enfant a un cerveau plus malléable, plus influençable. Je sais, hein, les enfants, vous allez me détester pour dire ça, mais je pense quand même que c'est une réalité. Moi, je dirais même les moins de 20 ans. Ouh, je connais des plus de 20 ans qui ont des cerveaux bien malléables aussi, hein, Nazado. Hein. Bref, tout ça pour dire, ce qui m'a fait sourire, c'est que je me suis dit, alors YouTube, tu t'y mets comment? Tu t'y mets quand à ça? Parce que théoriquement, les moins de 13 ans n'ont pas le droit de regarder YouTube, à part YouTube Kids. Et pourtant, on sait que les plus grosses audiences de YouTube se font chez les moins de 13 ans. Mais on ne les a même pas en statistique sur YouTube. Vous voyez, c'est là où c'est fourbe. Aujourd'hui, quand vous êtes YouTuber, vous avez des stats. Ça va jusqu'à 16 ans, mais ça va pas en dessous. Et vous savez pourtant que les plus grosses audiences se font en dessous. Il y a quand même quelque chose... Il y a quelque chose d'un peu pourri au royaume du Danemark. Hein, ça vient d'où, ça, pourri au royaume du Danemark? Page culture, vous n'avez pas droit à Wikipédia, le premier qui répond. Attention, non, là, c'est trop tard, vous êtes en train de chercher sur Wikipédia. Trop tard, trop tard. Là, vous êtes allé chercher la réponse sur Wikipédia. C'était l'omelette de jambon. C'est pas Othello? Ah oui, c'est Hamlet, oui. Last Action Hero. Ben oui, c'était ça. Non, maintenant, c'est moi qui ai un doute. Si, je crois bien que c'est dans Hamlet. C'est Hamlet qui se passe au royaume du Danemark. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Je crois que c'est Hamlet. Mais je pars dans les graviers. On renchaîne sur l'émission. On va faire deux petites brèves pour terminer cette émission. D'abord, OVH qui va laisser tomber Ubique. Qu'est-ce qu'était Ubique? Ubique qui, effectivement, était le service de stockage sur le cloud d'OVH. Un peu concurrent, effectivement, de ce que vous connaissez avec Dropbox, etc. Est-ce que déjà dans la chatroom, certains avaient un compte Ubique, soit gratuit, soit payant? Est-ce que vous utilisiez Ubique? Et pendant que vous répondez, eh bien, OVH annonce qu'il n'acceptera plus de nouvelles inscriptions pour Ubique, le service de stockage pour le grand public. Et l'entreprise ne compte pas non plus le faire évoluer à l'avenir. Donc, pas de panique. Si vous avez déjà, et je le dis pour Christophe, je le dis pour Jérôme, pour Yves, ah ouais, vous êtes quand même pas mal à avoir du Ubique, vos données ne vont pas disparaître. Mais sachez-le quand même, ça ne va pas évoluer non plus. Donc, ça peut être une idée de se mettre ailleurs. Mais il vous laisse le temps. Mais il ne ferme pas, mais il n'accepte plus de nouveaux comptes. Alors, moi, effectivement, ce que j'avais entendu du BIC, c'est que c'était quand même très, très lent et que ça posait quand même un problème. Déjà, c'était très lent et pas top. Bon, c'est une bonne raison d'arrêter aussi. La concurrence, de toute façon, elle est énorme et au niveau, même si OVH est une très grande boîte, je pense qu'en termes de bande passante et de ressources serveurs, ils n'ont pas les reins assez solides pour être en compétition avec Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, etc. Ils sont ouverts. Alors, ils disent on ferme. Si quelqu'un veut racheter Ubique pour développer, why not? Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont plus convaincus que ça d'une option de rachat. Ils ont ce qu'il faut, tu dis, Trolls and Art. D'accord. J'avoue que je ne m'y connais pas. J'ai cette impression quand même quand... Bon, je sais qu'OVH est quand même gigantesque. Mais je me dis quand même que Amazon, Google et Microsoft ont peut-être un peu plus de... Tu travailles chez OVH, d'accord. Donc, il y a les ressources. Mais les serveurs Ubique sont sur des serveurs en 100 mégabits. D'accord, ok. C'est pour ça que c'était lent, en fait. Tu travailles chez OVH. Je ne le savais pas. Après, je pense que c'est... On peut dire dommage, mais il faut... Ça, c'est une de mes grandes théories dans la vie et je suis content quand une entreprise l'applique. Il faut choisir ses combats. C'est important et c'est un truc dur dans la vie, mais il faut choisir ses combats. On ne peut pas se battre sur tous les fronts. Il faut essayer tout un tas de choses, mais après, c'est souvent le truc le plus difficile pour une entreprise, c'est choisir. Ça, par exemple, pour moi, j'admire peu de choses finalement chez Apple, dans l'absolu, mais il y a une chose qu'Apple fait très bien, c'est que Apple sait choisir ses combats et renoncer à d'autres combats. Ils ne se développent pas partout, ils se dispersent pas, ils choisissent leurs combats, et choisir ses combats, c'est le pouvoir de dire non. Non, c'est pas dans Hamlet. on fait pas d'Hamlet sans casser des œufs, hein, comme on dit au Danemark. ah oui, non, t'étais sur la discussion d'avant. Je trouve que c'est toujours courageux d'une entreprise d'abandonner un projet pour lequel ils ont, dans lequel ils ont investi du temps, de la ressource. Mais il y a un moment, faut avoir la lucidité en tant que chef d'entreprise et de dirigeant, de dire là, on va pas y arriver. Nos concurrents ont trop d'avance, on va perdre trop de ressources. Ça va empêcher des ressources sur d'autres sujets qui sont prioritaires. Et pour moi, c'est la marque d'un grand dirigeant, c'est d'arriver à fixer ses priorités. C'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire avec la chaîne, au cas où vous en seriez pas aperçu, parce que j'ai une fâcheuse tendance à me disperser et à vouloir tout faire. Et c'est un exercice difficile que de choisir ses combats, mais indispensable et salutaire. Donc, pour le coup, je dis bravo VH d'abandonner Ubique. Ça peut paraître bizarre. Non, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, Olek? Il faut pas choisir ses combats. On prend la sulfateuse et on tire sur tout le monde. C'est une question de développement, à savoir que OVH a racheté VM Cloud. D'accord. Effectivement, je suis pas dans les petits paniers de... Dans les petits papiers, plutôt. Pas dans les petits paniers, mais dans les petits papiers d'OVH. Bref, mettre les bonnes ressources au bon moment, sur les bons combats, c'est comme ça qu'on réussit une boîte. J'avoue que j'ai jamais testé OnCloud ou Nextcloud. Mais le gros avantage quand même par rapport à Google Drive et tout ça qu'avait Ubiq, et il y a d'autres services qui le proposent, mais j'ai pas les noms en tête, c'est que vos données étaient sur le territoire français. Et c'est vrai qu'il faut quand même réaliser qu'avec Dropbox, Google Drive et tous les autres systèmes cloud des GAFAM, vos données ne sont pas forcément en France, ni forcément en Europe. Donc ça peut être embêtant. Ça dépend du type de données que vous gérez. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention quand on a des données à mettre sur le cloud. Voilà. Mes gars, ils sont européens? Non, Vincent, je ne reprendrai pas du début. C'est impossible, je ne reprendrai pas du début. Parfois, je reprends du début, mais en fait, jamais. Attention, je me disperse et l'émission est bientôt finie. Je reviens dans la course. Et dernier article de ce Techscope. Je vous avais parlé de la semaine dernière du problème entre Steam et Apple. Valve qui veut lancer Steam Link. Steam Link, pour la refaire rapidement, Steam Link vous permettra de vous connecter à travers votre réseau local à vos jeux sur Steam, vos vrais jeux Steam. C'est-à-dire, vous pourrez jouer, avec bien sûr une manette compatible, sur votre iPhone, sur votre iPod, pas sur votre iPod, sur votre iPad, pardon, à vos jeux Steam. Un petit peu ce qu'on va théoriquement connaître avec Shadow PC, mais je ne veux pas tout mélanger. Shadow PC permet de faire plus de choses que de jouer à ces jeux. Mais après avoir approuvé l'application, Apple avait décidé soudainement de la bloquer. Du coup, les mecs de chez Valve ont fait « je sais pas quoi, merde, on va gueuler ». Je fais très bien les mecs de chez Valve. Ils ont dit « ouais, Apple, salaud, enfoiré, vous voulez pas qu'on rentre en compétition avec les jeux vidéo qui vous rapportent beaucoup plus de sous des jeux vidéo qui sont natifs à l'iPhone, à iOS. Donc vous avez très peur de notre Steam Link, c'est pour ça que vous nous bloquez, salaud, salaud, capitaliste, révolution ». Et Phil Schiller a pris la parole et a dit « Mais pas du tout les gars, déjà on se calme, hein, vous arrêtez là de gesticuler, hein, les mecs de Valve, hein, les mecs de Valve qui mettent la pression. » Non, je vais pas la faire. Je me perds là, je sens que cette fin de Techscope est en train de déraper. Qu'est-ce que en local? Ah, vous êtes encore sur l'article d'avant quoi. Eh bien, Phil Schiller dit, mais pas du tout. Mais pas du tout. Nous, on est ravis chez Apple que vous jouiez à des jeux PC sur iOS. Et il a raison. Putain, c'est une super bonne nouvelle pour iOS. Et quelque part, je suis persuadé, et j'arrête pas de le dire à propos de Shadow PC, je suis persuadé que si des plateformes comme Shadow, comme Steam Link, GeForce Now, se développe sur macOS et iOS, ça enlèvera une épine du pied d'Apple. Apple n'a absolument pas l'ADN du jeu vidéo pour gamers. Ils se développent bien en jeu vidéo sur iPad, les jeux vidéo mobiles destinés au mobile. Apple a bien tiré sa carte du jeu et on ne peut pas dire que Apple ne favorise pas le jeu vidéo. Mais c'est ce type de jeu vidéo qu'ils veulent favoriser. Maintenant, on va dire... les jeux vidéo triple A, hein, les vrais jeux, comme certains appellent, Apple ne veut pas mettre les doigts dedans, ils se sont toujours cassés les dents, les développeurs, à part Blizzard, et Blizzard les a abandonnés pour Overwatch, les devs traînent un peu des pieds pour développer leurs jeux sur macOS et même iOS, pour adapter les jeux. Si des mecs comme Valve avec Steam Link, Shadow avec Shadow PC, enfin Blade avec Shadow PC ou GeForce, Nvidia avec GeForce Now permettent de jouer aux jeux AAA sur des devices macOS et iOS, c'est win-win. Apple s'en Valve les mains. Pas mal, pas mal, pas mal. Mieux écrit que prononcé, ton jeu de mots. C'est tout bénef, ça leur enlève une épine du pied. On ne pourra plus dire les Mac sont pas faits pour les gamers. Et moi, je sais, alors s'il y a des gens de Shadow qui écoutent, quand je leur pose ma théorie qu'Apple devrait les racheter rapidement, ils se crient et disent, non, on ne veut pas être racheté par Apple, au secours, surtout pas, on veut pas, on veut pas. Mais m'empêche, je continue à le dire, si j'étais Apple, je rachèterais Shadow très rapidement. Ou en tout cas, je développerais un truc genre Shadow. Ça ferait un bundle pour vendre des Mac, des iPads et des iPhones absolument génial. Le meilleur des jeux PC et le meilleur des Mac. Donc, juste pour terminer, Phil Schiller dit, les gars, on vous a pas du tout bloqué pour vous empêcher d'arriver, mais juste parce que vous respectez pas les règles. Et il dit, il y avait plusieurs choses dans votre app qui allaient pas, notamment effectivement la manière, donc à demi-mot, vous avez oublié Apple dans votre business. En gros, c'est les 30% de com. L'enjeu, il est un peu là. Il dit qu'il n'y a pas que ça. Il dit qu'il y avait une manière de présenter les promos qui est non-compliant avec les règles de l'App Store. Le fond du truc, c'est qu'ils sont en train de négocier. Et ces négociations se font par des coups d'éclat. C'est bien pour ça que, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Valve qui dit, oh là là, Apple, salaud, ils veulent pas de notre appli. C'est juste aussi pour gonfler les muscles auprès d'Apple et dire, regarde, nos fans ont fait une pétition pour que Steam Link arrive sur iOS. Donc, tu prends pas 30%, tu prends 25%. C'est de la négo comme ça. On n'en saura jamais rien. Ben, si tu es doué en gestion VM, tu peux faire ton Shadow en local. Oui, mais il faut être doué en VM. Moi, après, tu vois, par exemple, je sais pas faire une gestion de VM et j'ai pas envie de passer du temps à apprendre ça. Donc, je suis très content que Shadow le fasse à ma place. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Tu peux créer tout à fait ton service de PC dématérialisé, de puissance déportée chez toi et le contrôler. Ben, tu vois, Trolls and Art, justement, Shadow sont en train de bosser pour vraiment faire une démonstration de quoi est capable Shadow PC. Ils vont faire des monstros Shadow, c'est-à-dire des PC ultra puissants avec plein de cœurs, plein de cartes graphiques et tout. Et tu pourras y accéder par ton internet, en fait. Après, mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs, il faudrait que j'en parle avec Corben. Il faudrait voir si on en parlera à la nuit du hack. Ça pourrait être intéressant même en termes de coûts de faire combien de ressources et de connaissances ça prendrait pour développer son propre VM perso chez soi par rapport à prendre un Shadow PC. Mais bien sûr, mais on en a déjà parlé. Et c'est une très bonne chose qu'il y en ait plein qui se lancent sur le marché de la VM grand public, parce que la VM, ça existe depuis longtemps. Et Shadow a, au contraire, pas du tout peur que d'autres se lancent là-dessus, parce que ça veut dire qu'ils ont raison de le faire. Je vous ai déjà expliqué, la concurrence, ça a une vertu essentielle. C'est que vous ne vous retrouvez pas tout seul sur le pont. Il n'y a rien de plus flippant quand vous êtes entrepreneur de lancer un truc et de vous apercevoir que personne ne fait pareil. Parce que là, vous pouvez vous dire, je me suis peut-être gouré quelque part. Et quelque part, ça a quelque chose de très réconfortant d'avoir de la concurrence. Parce qu'on se dit, j'ai pas tort de faire ça si d'autres y voient du business. La concurrence valide le marché. Merci Pascal d'avoir résumé ma phrase. C'est tout à fait ça. Mais même un génie, si tu as une idée de génie, et que dans les mois ou les années qui suivent, personne te suit, tu vas terminer génie incompris. Ton marché n'est pas validé, en fait. Ça fait partie des vertus de la concurrence. Car oui, ça en a beaucoup. C'est la fin de ce Techscope. En tout cas, c'est la fin des articles. Mais vous savez qu'on ne va pas se quitter là, puisque maintenant, vous allez pouvoir me poser des questions dans le cadre de notre Vie de ton fac de tous les jours. J'ai 5 minutes de retard sur le planning. C'est la faute à Microsoft qui m'a fait une mise à jour de Windows. Donc, je n'ai pas pu surligner mes articles. Donc, j'ai été moins concis que d'habitude. Je m'en excuse, mais vous pouvez dire que c'est de la faute de Windows qui a fait sa mise à jour. Voilà, hein, le mec qui rejette la faute sur les autres, c'est moi. Je vous remercie. Il y en a hein, des concurrents. Alors, ils font pas exactement la même chose, mais ils sont quand même... J'ai perdu la connexion. Je suis de retour ou pas? Je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? 5 sur 5. Ok. Coupure finie. Donc, allez-y. Go vos questions. J'ai pas Samuel ce matin, donc je suis tout perdu. Je sais pas s'il y a des questions Platinium ou pas. Est-ce que vous avez des questions ce matin? On reste ensemble. Allez, 9h15, grand max. Toujours chez SFR. Non, là, je suis en 4G chez Orange. Donc, le problème vient de la 4G. Je suis même pas en réseau, là. Go, 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 les questions! Si vous en avez, hein, sinon on se quitte là. Hein. Si vous n'avez pas de questions, pas obligé. Hein. Comment on fait pour écouter le stream en fond sur iPhone? Bah, le mieux, c'est de télécharger en replay sur iTunes. Mais si tu veux le direct en fond, il va falloir attendre le système d'abonnement type Red ou Premium de YouTube qui permet à YouTube de tourner en tâche de fond. Donc, par exemple, de pouvoir écouter la musique YouTube sans que de l'appli YouTube soit la première. Mais pour l'instant, on peut pas. En tout cas, de manière, on va dire, officielle. Ouais, j'avais laissé la porte de la cave ouverte et Samuel s'est enfui. Qui veut venir faire un tour dans ma cave? Que penses-tu du H266? Écoute, je connais bien le H265, mais le H266, je ne suis pas sûr de connaître toutes les specs. Je viens d'avoir une pub. C'était pas fini, les pubs sur Nowtech, pourquoi ça serait fini? Ce sera fini le jour où ça sera fini que j'ai besoin d'argent. Donc on aura basculé dans le monde de Star Trek où l'argent n'existe plus. Mais tant que la chaîne aura besoin d'argent, il y aura de la pub, oui. Quel est le sujet de la prochaine vidéo? Je ne te le dirai pas. Je te dirai pas. Je dirai pas. Je dis plus, j'annonce plus rien sur les vidéos. Vous êtes trop demandeurs, sinon. Nowtech devient la chaîne des surprises. La différence entre Shadow et l'autre Liquid Sky, je ne suis pas certain que Liquid Sky t'ait accès à un PC complet. Et je ne sais pas si dans l'attribution des ressources, Shadow te permet quand tu branches vraiment d'avoir une session complète, un accès en tout cas complet à la carte vidéo non partagée en termes de puissance. Je ne sais pas si c'est le cas pour Liquid Sky. Il faudrait que je regarde dans le détail. Je ne sais pas tester Liquid Sky. Je ne suis pas sûr que ça soit Liquid Sky, hein, d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus le nom de l'autre truc. Je sais, mais même les sujets, Yves, je ne vais pas les donner. Parce que si par hasard je change d'avis, en fait, si je fais ça, si je veux plus vous faire d'annonces et tout ça, c'est parce que c'est une pression toxique pour moi. Il y a des bonnes pressions. Hein. Mais à force de promettre des vidéos, de dire je vais faire des vidéos sur ci et ça, ça met une pression sur la prod et j'y perds beaucoup en sérénité. Donc, je préfère garder la liberté de pouvoir changer de sujet aussi. Pas me sentir obligé de faire certaines vidéos à des moments alors que j'en ai une autre plus pertinente à faire et ce genre de choses. Les choses changeront quand j'aurai les ressources humaines pour pouvoir produire tout ce que je veux promettre. Mais aujourd'hui, il faut que je sois plus réaliste par rapport aux ressources que j'ai, en fait. Les ressources de temps. Non, je ne suis pas contre. J'étais persuadé que Jérôme avait annoncé la fin des pubs obligatoires. Non. Non, 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 non. Non, non. Les choses que je vous ai annoncées, c'est que maintenant qu'on n'est plus chez enfin, on est direct avec YouTube. Donc, vous ne devriez plus avoir de publicité non collapsable, sauf des très courtes. Vous savez, les pubs qu'on ne peut pas fermer et qui durent longtemps, qui sont super relous. En tout cas, sur YouTube. Hein. Après, d'autres plateformes continuent à diffuser des pubs comme ça. Normalement, vous ne devrez plus en avoir. C'est la seule chose. Ça s'est fait parce qu'on a quitté Believe et maintenant, on est en direct avec YouTube. Mais non, pour moi, il est hors de... Même, je vais vous dire, j'ai rajouté des pubs dans les vidéos. Je rajoute des pubs. Parce que, comme maintenant, avec la démonétisation des vidéos, le chiffre d'affaires des pubs est en chute constante, je suis bien obligé de rajouter des pubs. Sans parler du fait que vous êtes quand même un nombre de plus en plus important à utiliser des ad bloqueurs. C'est votre choix, on ne va pas repartir sur les débats, mais les revenus publicitaires sont en train de devenir de plus en plus faibles, voire risibles. Voire risibles quand on voit le nombre de vues, quoi. Ça doit, je vais être transparent sur les sommes, je crois qu'on gagne entre 200 et 300 euros de pub par mois, sur l'ensemble de la chaîne. Donc oui, c'est risible. Ah non, moi, je choisis pas les pubs, c'est YouTube. Tout ce que je fais, c'est donner à YouTube l'accès à mon inventaire publicitaire et de lui accorder des endroits où YouTube peut passer des publicités. Mais c'est pas parce que les inventaires sont libres que YouTube y met forcément de la publicité. Ça dépend de ce que YouTube a en stock comme publicité à diffuser. Bah, Ludovic, moi, j'adorerais que YouTube propose en France un système comme il y a aux États-Unis qui vous permettrait de payer pour ne pas avoir de publicité. Mais il faut bien comprendre qu'il faut à un moment bien vivre de son contenu. Donc, je sais que les pubs sont chiantes avant chaque vidéo. D'abord, réaliser que c'est quand même beaucoup moins chiant que les pubs télé. Et je vois pas beaucoup de gens gueuler contre les pubs télé parce qu'ils disent « Ouais, je vais pisser pendant les pubs télé. » Me faites pas croire que vous avez une cystite et que vous allez pisser sur toutes les pubs de la télé. Hein, ça fait beaucoup de pipi quand même. Bref, tout ça pour dire, vous avez du contenu gratuitement, ça n'existe pas le contenu gratuit. Il faut bien qu'il y ait une circulation de valeur à un moment, sinon plus personne ne va produire du contenu. Donc je sais que les pubs sont chiantes, j'aimerais vraiment que YouTube arrive très vite en France avec un YouTube Red ou un YouTube Premium qui vous permettrait de payer pour ne pas avoir de publicité et en payant, ça m'assurerait une part de revenus. Parce que si vous payez l'abonnement et que vous regardez une de mes vidéos, YouTube m'attribuerait une part de votre abonnement. Oui, mais comprends bien, Ludovic, c'est là où il faut toujours aller jusqu'au bout de ses raisonnements. Si tout le monde zappe les pubs à la télé n'existe plus. Alors, tu peux te dire à la française, oui, mais c'est les autres qui regardent les pubs pour moi, et moi j'en profite. Mais à un moment, quand tout le monde se met à penser comme ça, le système s'écroule. Et c'est bien ce qui arrive aujourd'hui sur Internet et les publicités, c'est que tout le monde se dit, il y a des couillons pour regarder les pubs, et moi je profite du contenu vraiment gratuitement, sans les inconvénients de la pub. Mais sur Internet, on est déjà un petit nombre de technophiles, et ça commence à être des grosses audiences, surtout sur certains sites, qui bloque les pubs. Donc, il n'y a plus de couillons pour assurer le revenu. Tu vois, il y a un moment, c'est que quand tout le monde se dit il y a des couillons pour payer, eh ben, on n'a plus assez de couillons. Oui, mais au moins, les gens auront le choix entre payer pour un YouTube Premium ou Red ou regarder les pubs. Après, je sais qu'il y aura toujours des gens qui mettront des ad bloqueurs et qui trouveront des moyens. Mais c'est pas pour ça que je vais l'encourager. Je vois aujourd'hui trop de sites, notamment dans la technologie, des blogs qui disparaissent parce que leurs revenus se sont rétrécis comme peau de chagrin et que tout le monde leur dit « Ah, mais t'as qu'à mettre un système de dons ». Ça ne compense pas les revenus publicitaires, je vous le dis. Dans votre tête, oui, vous dites « Ah, les gens sont généreux, ils vont donner, ça va remplacer les revenus publicitaires ». Non, dans les faits, non. Les dons ne suffisent pas. Alors, vous allez me ressortir Gamekult, mais allez voir les et parlez-en aux gens de Gamekult, s'ils ont le même chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant, avec les dons. Non, ils l'ont pas. Ils sont mis en mode survie, justement. Et il est 9h15, 9h16, et c'est la fin de l'émission. Désolé, mais faut pas me brancher sur ce sujet-là. Parce que je trouve qu'il y a une injustice sur ce système dans la perception du public sur la publicité. Tant que Google ne bloque pas les adblockers, c'est que le problème n'est pas encore si dérangeant pour eux. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Mais on l'a déjà abordé dans plein d'articles. Bon, eh bien écoutez, on se quitte là. Rendez-vous demain à l'endroit ou à l'envers. Je ne devrais pas dire cette phrase comme ça, ça prête à ambiguïté. On se retrouve demain, quel que soit le sens. Telle Alice de l'autre côté du miroir, nous vous présenterons Techscope, Marion et moi demain 8h. Rendez-vous, passez une très bonne journée. Salutations à toi, Troll et Zenart. Encore merci pour ta grosse contribution. Le timer du type de troll est pas fini, tu peux pas quitter. Bon, je fais l'émission que pour lui alors. Private émission.